Chapitre 20. Bernard et moi. En ce début de soirée du mercredi 27 juin 2018, il régnait sur Genève une atmosphère des plus agréables. Scarlett et moi longeâmes la rue de Contamine jusqu'au musée d'histoire naturelle, puis nous descendîmes la rue des Glacis de Rive. L'air était suave et sentait bon l'été. Nous arrivâmes bientôt à un petit restaurant français que j'affectionnais. Le patron nous installa sur la terrasse, à une petite table illuminée aux bougies. Scarlett, après avoir parcouru le menu, me dit « Je crois que je vais prendre du Saint-Pierre ». C'était le poisson préféré de Bernard. Lorsqu'il m'emmenait déjeuner au Dôme à Paris, il déclarait toujours d'un ton solennel « Le Saint-Pierre, c'est le roi des poissons ». Quel moment merveilleux nous avons passé ensemble dans ce restaurant. Nous faisions chaque fois 1000 projets pour le futur. Je commandai une bouteille de Bourgogne. Bernard, encore, qui considérait qu'on pouvait parfaitement accompagner du poisson avec un rouge léger, et de l'eau minérale gazeuse. On nous apporta une bouteille de Châteldon et je m'amusai de la coïncidence. « L'eau préférée de Bernard, » dis-je. C'est vraiment sa soirée. Il aimait l'eau pétillante, mais pas trop. Il trouvait la Châteldon parfaite. Il disait que c'était l'eau du roi, en référence à Louis XVI. « L'eau des collabos aussi, » releva Scarlett. « Ce n'est pas Pierre Laval qui a racheté Châteldon ?»« Bernard disait ça aussi, » répondis-je dans un éclat de rire. Elle sourit tendrement. « Parlez-moi de Bernard. Vous m'avez laissé sur ma faim ce matin. Où en étais-je ? Vous m'aviez parlé de votre premier roman qui n'était pas un succès du tout. » Ouais, voilà. En janvier 2012, mon premier roman paraît et c'est donc un échec commercial. Un ou deux mois après, Lidwinelli me téléphone. Lidwinelli, c'est votre bienfaitrice, c'est ça? Celle qui vous a mis en contact avec Bernard. Exactement. Vous avez bonne mémoire? Elle savait que j'avais un manuscrit terminé et s'apprêtant à partir en vacances, elle voulait l'emporter avec elle et le lire. Je le lui envoie et à son retour, deux semaines plus tard, elle me dit « C'est un très bon roman, il faut que Bernard le lise ». Bernard le lut à son tour et fut immédiatement convaincu. « Il faut faire paraître ce roman très vite », décréta-t-il, « d'ici le mois de septembre ». Le seul à ne pas être convaincu, c'était moi. Après ce que je considérais être l'échec de mon premier roman, je ne voyais pas comment mon second roman pouvait, seulement quelques mois plus tard, connaître un destin différent. J'ai donc refusé. « Vous avez refusé ?» s'étonna Scarlett. « Oui. » Cela nous laissait trop peu de temps à mon goût pour préparer la publication. Les éditeurs, en général, tablent sur une année pour annoncer leur programme. Et que s'est-il passé? J'ai découvert l'incroyable pouvoir de persuasion de Bernard. Paris, 29 juin 2012. J'étais de passage à Paris, et Bernard m'avait proposé de déjeuner avec lui. Il m'avait suggéré de passer à la maison d'édition avant, vers 11h. Nous nous étions parlé au téléphone à plusieurs reprises, mais c'était la première fois depuis janvier que nous nous revoyons. En arrivant aux éditions de Fallois, 22 rue de la Boétie, je fus frappé de découvrir le visage de Bernard. Il me semblait rajeuni, plus en forme, animé d'une nouvelle force. En pénétrant dans son bureau, je découvre alors sur sa table des épreuves de mon roman, imprimées en différentes tailles.
« Comme votre roman est assez épais, » m'expliqua Bernard, « je voulais étudier quel format serait le plus pratique. » Du papier plus fin, mais plus lourd, ou du papier plus épais, mais plus léger.
Mais Bernard, je vous ai dit que je ne voulais pas publier ce roman maintenant.
Je sais, mon cher Joël, me rassura-t-il aussitôt. Je voulais simplement faire quelques essais par curiosité. Si je voulais vous voir, c'était pour vous remercier.
Me remercier de quoi?
De l'excitation que vous m'avez procurée avec ce livre. C'est un sentiment extraordinaire.
Pendant une heure, il me parla de mon roman. Il m'expliqua pourquoi ce livre aurait pu avoir un immense succès. Puis nous allâmes déjeuner au Divélec, l'un des restaurants de poissons les plus prisés de Paris. Je fus très étonné qu'il m'emmène dans un endroit pareil, comme s'il célébrait quelque chose. Il commanda immédiatement du champagne, ce qui n'était pas dans ses habitudes, et, levant sa coupe, il me dit « Mon cher Joël, je bois à la santé de ce roman que je ne publierai pas, mais qui m'a procuré une excitation d'éditeur que je n'avais plus ressentie depuis très longtemps. Grâce à vous, je me suis rappelé pourquoi je faisais ce métier. » Il n'en fallut pas plus pour me convaincre. Bernard, dans toute sa splendeur, ce charisme, cette voix, ce regard, cette capacité que les grands politiciens ont de vous faire vous sentir unique. Et puis, Il y avait quelque chose de fou et de stimulant dans cette parution soudaine et précipitée. Cet homme de 86 ans rêvait plus fort que moi. Le lendemain, après une nuit de réflexion, j'allais trouver Bernard pour lui dire que j'acceptais qu'il fasse paraître ce roman au mois de septembre. « Vous êtes sûr que ce n'est pas un peu précipité ?» m'interrogeai-je encore. « Décider le 30 juin de faire paraître un livre pour le début du mois de septembre ?»«
Ce n'est ni l'auteur ni l'éditeur qui décide de la publication d'un livre. C'est le livre lui-même qui décide de quand il doit être publié. »
Il m'assura ensuite que ce livre serait un immense succès. « Comment pouvez-vous être certain que le livre aura du succès ?» lui demandai-je.
« Le succès d'un livre, me répondit-il, ne se quantifie pas au nombre d'exemplaires vendus, mais au bonheur et au plaisir que l'on a pu éprouver à l'éditer. »
Une fois encore, Bernard avait raison. Durant les 2 mois qui suivirent, nous travaillâmes dans une joie et une excitation indescriptibles à la relecture du texte, au choix de la couverture et à l'envoi d'épreuves aux journalistes et aux libraires. Toute la maison d'édition était en ébullition. Mes quelques connaissances au sein du milieu littéraire parisien me prédirent toutes que mon livre allait se planter. On m'indiqua, d'un ton savant,
« Personne ne fait ça. On ne rajoute pas un livre en juin au programme de la rentrée littéraire de septembre. Les journalistes sont déjà en vacances, les libraires ont déjà fait leur sélection. »
C'était un bon point. Comment faire en sorte que les libraires, parmi les 600 titres de la rentrée, décident de mettre en avant le livre d'un jeune auteur totalement inconnu? Comme je lui posais la question, Bernard me répondit sans sourciller.
« Je vais téléphoner. »«
Téléphoner? Mais à qui ?»«
Aux libraires. Je vais appeler tous les libraires de France. »
C'est ce qu'il fit. Bernard consacra des journées entières à téléphoner à des centaines de librairies. Chacune d'entre elles recevait plusieurs coups de fil de lui. Le premier pour les informer qu'il envoyait un livre qui lui avait beaucoup plu et qu'il voulait avoir leur avis de libraire. Le deuxième pour relancer le libraire qu'il avait eu en ligne 2 jours auparavant et s'assurer qu'il avait pu débusquer, parmi la centaine de paquets identiques, le livre reçu en express des éditions de Fallois.
« Je vous rappellerai demain pour savoir ce que vous en pensez »,
disait Bernard. Et il rappelait. Et encore. Ainsi fit-il lire mon roman à travers toute la France à des libraires curieux de savoir quel livre pouvait leur valoir un appel du grand Bernard de Fallois. Mon livre parut en même temps que le nouveau roman de J.K. Rowling, qui de surcroît était son premier livre qui ne fut pas de la série Harry Potter, et tout le monde se demandait ce qu'allait être ce roman. Le marché était inondé des exemplaires du J.K. Rowling. On ne parlait que de cela. L'attente des lecteurs était à son comble pour ce nouvel opus, dopé par un voile de secret imposé par l'éditeur français, qui avait par ailleurs déboursé une somme faramineuse pour en obtenir les droits. Personne n'avait pu lire le livre en avant-première, et les exemplaires avaient été livrés en librairie dans des caisses scellées, transportées par des agents de sécurité comme des pierres précieuses. Je me demandais, inquiet, comment je n'allais pas me faire avaler tout cru par un tel mastodonte. Mais voilà que les lecteurs, se précipitant en librairie pour acheter leur exemplaire du J.K. Rowling, demandèrent au libraire, réflexe habituel d'un client de librairie, « Est-ce qu'il est bien ?» Ce à quoi les libraires leur répondirent « Je ne sais pas. Je n'ai pas eu le droit de le lire. Par contre, j'ai lu un autre livre d'un jeune auteur inconnu et qui m'a beaucoup plu. » Bernard avait le flair et le talent des grands éditeurs. D'une première mise en place de 6 000 exemplaires, nous atteignîmes 3 mois plus tard le 500 000 vendu. Les droits furent ensuite achetés par des éditeurs du monde entier. Mon roman allait se vendre à des millions d'exemplaires en 40 langues. Bernard était de ces grands hommes d'un autre siècle, fait dans un bois qui n'existe plus aujourd'hui. Dans la forêt des êtres humains, il était un arbre plus beau, plus fort, plus grand. Une essence unique qui ne repoussera plus. Ce soir-là, à Genève, je racontais Bernard à Scarlett pendant des heures. Elle ne se lassa pas de mes anecdotes, qui retracèrent les 6 années de bonheur d'écrivain que je vécus avec mon éditeur et qui me parurent compter comme 20. J'avais même l'impression de ne pas avoir connu la vie sans Bernard, comme s'il avait toujours été présent à mes côtés. Je racontais nos déjeuners au Dôme, le restaurant où nous fîmes tant de projets. Je racontais la voiture de Bernard, une Mercedes 230E bleue datant des années 1980, et dont il me disait en rigolant « Ma voiture est plus vieille que vous, Joël ». Quand il ne trouvait pas de parking en arrivant au bureau, il la laissait simplement sur la rue Miroménil, devant le restaurant Le Ménil, dont la tenancière lui téléphonait si la fourrière venait pour l'enlever. Je racontais son érudition. Je racontais sa passion pour les clowns. Je racontais sa passion pour le cinéma. Je racontais sa passion pour Proust, dont il avait, parmi les premiers, compris l'importance et dont il avait découvert des inédits. Je racontais sa gentillesse, sa curiosité, sa générosité, sa grandeur d'âme. Je racontais comment il me rejoignit à plusieurs reprises sur mes tournées, à Milan, à Madrid, où il avait régulièrement séjourné, à Rome, et espérant m'accompagner un jour à Buenos Aires, ville dont sa mère était originaire. Je racontais combien nous avions été heureux, Bernard et moi. Lui qui fut mon éditeur, mon maître et mon ami. Après notre dîner, j'emmenai Scarlett faire quelques pas au bord du lac Léman. Genève me semblait plus belle que jamais. Nous nous arrêtâmes dans un bar pour boire un verre, puis dans un autre, et nous continuâmes ainsi notre petit tour de la ville. Il était tard lorsque nous regagnâmes finalement l'avenue Alfred Bertrand. « Je vous offre un dernier verre ?» proposai-je à Scarlett en entrant dans mon appartement. « Je ne refuse jamais un dernier verre, » me dit-elle, « mais il me semble que c'est le troisième dernier verre que vous m'offrez. » « Vous savez ce qu'on dit ? Jamais 304 ?» Elle éclata de rire et s'installa sur le canapé du salon. Je choisis quelques bouteilles dans le bar. Le temps d'un aller-retour à la cuisine pour chercher des glaçons, Scarlett s'était endormie. Je déroulai une couverture sur ses jambes, posai un baiser sur sa joue, puis la contemplai pendant un long moment. Je sortis fumer sur le balcon du salon. Je ne pus m'empêcher de fixer le balcon voisin, celui de Sloane. Son appartement était éteint. Je me demandais où elle était, ce qu'elle devenait. Puis je regardai le parc Bertrand devant moi. Je remarquai que l'air était soudain lourd. La nuit, quelques instants plus tôt, traversée d'étoiles, s'était chargée de nuages tumultueux. Un grondement déchira le ciel. Il se mit soudain à pleuvoir des trompes d'eau.
« Écoutez-moi attentivement, » dit Wagner que la pluie ne semblait pas atteindre. « Vous allez empêcher Tarnogol de prendre le pouvoir. »«
Attendez, » dit alors Macaire qui désespérait de se sortir de ce guépier. « J'ai peut-être un moyen d'écarter Tarnogol sans avoir besoin de l'éliminer physiquement. »«
Comment ça ?»«
J'ai monté une petite opération avec mon cousin, Jean-Bénédicte Hansen. On a baptisé ça « Opération Retournement ». Ma femme et moi, nous nous rendrons à la soirée de l'association des banquiers genevois demain soir, à la place de Jean Béné. C'est à l'hôtel des Bergues, et Tarnogol y sera. Après la soirée, je trouve un prétexte pour entraîner Tarnogol sur le quai. Nous discutons tous les deux. Là, mon cousin nous fonce dessus, en voiture. Moi, je sauve Tarnogol, et comme il me devra la vie, il sera obligé de me donner la présidence. Vous voyez, pas besoin de vos manigances, tout va rentrer dans l'ordre.
Macaire, nerveux, attendit la réaction de Wagner qui ne se fit pas attendre.
« Mais vous êtes complètement fou !» glapit ce dernier. « Si vous l'écrasez avec une voiture, cela va attirer l'attention sur vous. Vous allez vous faire prendre. Et encore plus, si votre cousin est mêlé à tout ça. Il craquera au premier interrogatoire de police. »
« Non, parce qu'on ne l'écrase pas, justement. »
« Mais vous devez tuer Tarnogol. Tuez-le vous-même. Je ne suis pas un meurtrier !»
« Vous ne comprenez pas, Macaire. Vous n'avez pas le choix.
Si vous ne m'obéissez pas, je détruirai votre vie. Si vous ne m'obéissez pas, voilà ce qui se passera. Tarnogol mourra de toute façon, tué par balle. L'arme du crime, un Glock, comme celui que vous possédez. Des témoins oculaires vous identifieront formellement. Vous serez fait comme un rat, Macaire. La police, enquêtant sur vous, remontera au double meurtre de Madrid. Vous pourrez raconter ce que vous voudrez, personne ne vous croira. Je vois mal comment vous échapperez à la prison en perpétuité, pour des crimes que vous n'avez pas commis. La vie est injuste, non ? Pour éviter tous ces malheurs, il suffit d'accomplir une toute petite chose, éliminer Tarnogol proprement. Avec une méthode qui ne laissera aucune trace et qui a fait ses preuves au sein des services secrets du monde entier. »
Il sortit une fiole de liquide transparent de sa poche et la tendit à Macaire.
« Demain, ce fameux dîner de l'association des banquiers genevois, vous verserez toute la fiole dans le verre de Tarnogol. C'est tout ce que vous avez à faire. Sur le moment, il ne se passera rien. Et pendant la nuit, Tarnogol fera une crise cardiaque qui l'emportera. C'est un crime parfait. Personne ne se doutera de rien. Personne ne saura jamais que Tarnogol a été assassiné. »